Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 23 de la saison 3 du podcast « Les enfants vont bien ». Je pense que nous avons toute cette question dans un coin de notre tête quand nous débutons un parcours d'accès à la parentalité. Et peut-être même dès que l'idée commence à mûrir. Et si cela ne fonctionnait pas ? Allons-nous savoir quand nous arrêter ? Jessica fait partie de ces femmes qui savent qu'elles ont une limite et qu'elles ne compromettront pas leur intégrité physique et morale, quelle que soit la nature de leur projet. J'avoue que j'admire cela. Connaître ses limites est une vraie force. Alors quand elles se lancent dans leur parcours de PMA avec sa femme Émilie, leur choix était clair. Au fur et à mesure de leurs essais et des résultats négatifs, leurs convictions se sont affinées, mais le grand huit des émotions les a embarquées et les a emmenées peut-être plus loin que ce qu'elles imaginaient. Quand un corps dit stop et que l'autre n'est pas en capacité d'accueillir une grossesse, il est difficile d'acter que finalement, la suite de leur histoire se fera sans bébé, mais remplie d'autres jolis projets. Pour garder la maîtrise de leur avenir, elles ont eu besoin de se lancer dans un projet concret, un projet dans lequel elles avaient le pouvoir et le contrôle. C'est en suivant leur compte, @ej.inlife76, que j'ai fait la connaissance de Mozart, leur van entièrement aménagée par L2, et que j'ai découvert leur histoire sous-jacente. C'est tout en émotion que Jessica m'a confié son témoignage, d'une grande force, et je l'en remercie encore, car je suis convaincue qu'elles ne sont pas les seules à avoir arrêté leur parcours, par choix ou non, et que certains, certaines, se posent la question de leurs limites. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jessica.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup d'être rendue disponible pour cet enregistrement, enregistrement que j'ai un peu été chercher suite à un reel que tu as fait, une petite vidéo que tu as fait sur Instagram qui m'a beaucoup touchée, énormément parlée et surtout qui m'a rendue admirative de ce que vous aviez pu vivre et du parcours que vous aviez eu. Je vous invite tous d'ailleurs à aller voir sur le compte de Jessica qui est donc
ej.inlife76.
Voilà, bon, je le réécrirai. Pour que vous compreniez la démarche de Jessica, vraiment aujourd'hui, je sais que c'est pas facile pour toi d'être là avec nous et d'aborder le thème qu'on va aborder. Donc encore une fois, je te remercie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ?
D'accord. Bah déjà, moi aussi, je voulais te remercier hein, de m'avoir proposé d'enregistrer ce podcast avec toi. Et pour me présenter, bah, moi, c'est Jessica, j'ai 34 ans et je suis en couple depuis 6 ans avec Émilie, qui elle a 30 ans.
Qui elle a 30 ans. Voilà. Et vous êtes les propriétaires de...
Et on est les propriétaires d'un fourgon aménagé qui s'appelle Mozart.
Voilà. Je me permets de le signaler parce qu'en fait, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que moi j'ai découvert ton compte. C'est
tout simplement parce que je suis dans un gros trip de pleine nature et du coup, je suis le hashtag vanlife. Je pense qu'on est de plus en plus à le suivre. Et du coup, j'ai découvert ton compte sans savoir initialement que tu étais en couple avec une femme et sans savoir que vous étiez passé par un parcours de PMA. Je ne sais pas si on le savait, toutes celles qui vous suivent, celles ou celles-le. Et c'est vraiment ta vidéo, donc ton reel, qui m'a fait comprendre que non, vous n'alliez pas vous lancer dans un parcours de PMA, mais que vous étiez déjà lancé et que vous arrêtiez votre parcours de PMA.
Exactement.
Pour commencer, est-ce que tu peux me dire, me raconter en fait, ta rencontre avec Émilie ? Comment ça s'est passé pour vous ?
Oui, alors nous on s'est rencontrés grâce à une application de rencontre en janvier 2016. Moi je vivais en région parisienne et Émilie elle vivait à Rouen. Il y avait plus de 100 km entre nous et normalement on n'aurait pas dû... on n'aurait pas dû se matcher, voilà, mais ça a matché, hein, comme on dit.
C'est fou.
C'est fou, ouais. C'était un peu, pour moi, c'était un peu le destin.
Le sens de la vie, ouais.
Exactement. Et une semaine après, en fait, je faisais la route jusqu'à Rouen pour la rencontrer. Et après, ça a été plutôt rapide, hein. Déjà, on sortait toutes les deux d'une longue relation et on savait ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas.
Voilà. Au moins, les bases sont posées.
C'est ça, exactement. Puis après, en très peu de temps, en fait, on a vécu pas mal de choses hein, toutes les deux, ce qui a fait qu'on a su traiter vite, très très vite, qu'on était faites l'une pour l'autre. Et puis, on communiquait énormément hein, donc sur nos vies respectives, sur nos attentes, sur nos visions de l'avenir. Et du coup, on a très très vite parlé aussi de la parentalité.
Et oui, et évidemment, dans la mesure où vous saviez ce que vous vouliez, je pense que c'est des choses auxquelles vous aviez déjà réfléchi, surtout suite à une longue relation. Quand est-ce que c'était ? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?
Donc, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, là. En janvier, en fait, on s'est rencontrés tout début janvier 2016.
Tout début janvier 2016, donc ouais, effectivement, 6 ans. Et alors, du coup, vous aviez réfléchi à la parentalité, chacune de votre côté, je suppose, initialement ?
C'est ça. Alors, moi, j'ai toujours travaillé en contact avec des enfants. J'ai été animatrice et directrice d'accueil de loisirs.
Oui, effectivement.
Voilà. Et je m'étais toujours posé la question hein, si je voulais des enfants ou pas. Et j'avais jamais vraiment trouvé de réponse en fait à cette question-là jusqu'à que je rencontre Émilie. Par contre, elle a toujours su qu'elle en voulait et la question, elle était très simple pour elle. Et voilà, elle voulait des enfants.
D'accord. Et vous étiez en couple avec des femmes avant ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Donc vous aviez réfléchi à comment vous souhaitiez avoir des enfants ?
Oui. Enfin, j'avoue que elle, je sais pas trop, mais moi, oui, je m'étais posé pas mal de questions. Déjà, j'avais un couple d'amis homo, enfin gay, et donc du coup, je m'étais posé la question de la coparentalité déjà, puis du don pour avec une forme artisanale. Enfin, je m'étais déjà posé pas mal de questions sans jamais vraiment que ça soit sérieux et quelque chose de construit.
D'accord. Et donc du coup, suite à votre rencontre, vous vous en parlez mutuellement hyper rapidement a priori.
Oui, c'est ça. Donc du coup, au bout de quelques mois, hein, déjà, on en discute sans que ça soit concret. Mais au bout d'un an de relation, voilà, on prend la décision d'y réfléchir vraiment sérieusement. Donc d'abord, on se pose pas mal de questions, hein, par quels moyens, qui porterait. Aucune de nous deux n'avait cette envie en fait particulière de grossesse. Mais vu que j'étais la plus âgée, hein, je venais de fêter mes 30 ans à l'époque, et on a décidé du coup que ça serait moi qui porterais. Et à l'époque, en fait, j'étais suivie par un gynéco qui m'avait dit qu'un jour, si je voulais un enfant, il me mettrait en contact avec des cliniques étrangères.
Ah oui, donc tu avais déjà abordé ça avec ton gynéco.
Voilà, enfin, c'est lui qui était... C'est lui qui,
oui, c'est lui qui était exactement, en anticipation.
C'est ça, voilà. En fait, moi, j'y allais régulièrement hein, pour des contrôles, hein, enfin, tout basique. Et lui, on en avait discuté, donc j'avais dit que j'étais en couple avec une femme avant de rencontrer Émilie, et donc il m'avait dit si vous voulez des enfants un jour, vous n'hésitez pas, etc. Donc, donc voilà, j'étais assez à l'aise avec lui, il était très ouvert, donc c'était vraiment chouette d'avoir cette relation-là avec un gynécologue donc, en région parisienne. Donc voilà, je savais que je pouvais lui en parler sans problème dès que j'aurais pris la décision, dès qu'on aurait pris la décision. Voilà, je lui en ai parlé, et à partir de là, il m'a fait passer quelques examens déjà, de base. Et c'est là qu'on a découvert en fait que j'avais le syndrome des ovaires micropolykystiques.
Micropolykystiques.
Oui, c'est SOPK.
C'est le SOPK, d'accord, oui, mais je ne savais pas qu'il y avait le micro devant, ok.
Voilà, c'est ça. Après, il m'a dit qu'en soi, enfin, moi, je connaissais pas, hein, donc c'est lui qui m'a tout expliqué. Il m'a dit qu'en soi, ce serait pas un souci, que si je passais par une clinique, il me prescrirait, enfin, la clinique me prescrirait de quoi faire une stimulation. Et que sinon, ça pouvait peut-être être un peu compliqué, mais en gros, pour lui, c'était pas un problème.
D'accord.
Voilà. Du coup, le choix de passer par une clinique, bah, ça s'est fait comme ça.
D'accord. Oui, du coup, tu savais que, voilà, il fallait passer par une clinique, voilà, en fait, tu t'es pas posé d'autres questions.
Non, c'est ça. C'est lui que, par rapport à ce qu'il m'a expliqué, etc. Donc, je me suis dit que c'était, ouais, c'était vraiment le mieux. Ce serait que ça soit avec un côté médical derrière, qu'on ait un suivi médical sur ce projet-là.
Et du coup, il t'a orienté, lui, directement vers une clinique précise ?
Non, pas forcément. Lui, il était plus en contact avec des cliniques espagnoles. Et d'accord. Nous, en fait, on a choisi une clinique en Belgique puisque c'était plus près de chez nous. Mmh. On a fait pas mal de recherches, etc., sur Internet, demander des conseils aux couples de femmes qu'on connaissait. Et du coup, on s'est fixé sur une clinique à Bruxelles.
D'accord. L'UZ ?
C'est Erasme.
Ah, Erasme. Oui, il y en a plusieurs, effectivement. C'est la première fois qu'on me parle d'Erasme. Tiens, c'est marrant. Ok. Et alors, tu les appelles tout de suite ? Tu en parles avec ton gynéco ou comment ça se passe ? Enfin, dans quel ordre se font les choses ?
Alors, non, on les contacte. C'est Émilie qui les a contactés, qui a demandé le protocole à suivre pour entrer en PMA chez eux. Et donc, ça devait être début d'année, peut-être avril 2017, je crois.
Oui, ça a été assez vite, hein, du coup, ça
ouais.
fait un an
oui,
et demi.
Oui,
quoi.
C'est ça, ça faisait un an et demi qu'on était ensemble.
D'accord.
Avril 2017, ça doit être ça, on les a contactés, mais on a pris rendez-vous pour un rendez-vous en juillet. Donc, on a pris notre temps. Même s'ils avaient de la place avant, on s'est dit, bon, de toute façon, ça ne sert à rien. On voulait vraiment les contacter, nous, pour voir comment ça allait se passer. Mais en fin de compte, on a pris un rendez-vous quelques mois après, donc en juillet 2017. Voilà.
D'accord. Oui, bah, de toute manière, il y a le moment où on le contacte, c'est et ça. Puis le moment où on est prêt, nous.
Voilà, c'est ça.
Donc juillet 2017 pour le premier rendez-vous, donc pour tout l'administratif, on va dire, et le premier contact en fait.
Oui, exactement.
D'accord. Et là, tu les informes de ton syndrome SOPK ?
Non, parce que du coup, alors, entre-temps, dans l'année 2017, du coup, on s'est paxé avec Emily. Mm-hmm. Il y avait vraiment ce besoin de s'unir, en fait, de créer quelque chose ensemble. Donc déjà, on décide de se paxer et d'affiler, en fait, j'ai fait ma demande en mariage.
Ouh.
Voilà. Quelques semaines
alors,
après.
Alors, en fait, je me suis paxée, mais en fait, je veux me marier.
Voilà, d'accord. C'est ça. Non,
c'est ce que je comprends.
Voilà, après, on a mis du temps hein, pour le mariage. On a attendu après la demande. Il y a eu 2 ans qui se sont passés. Mais voilà, c'est
si
ça.
On veut faire ça à notre façon, on va dire.
Et puis, de toute façon, c'était un passage obligé pour la clinique.
Ah ouais.
Voilà. Donc, par rapport... Enfin, nous, dans notre projection qu'on avait, on s'est dit de toute façon, il fallait y passer, en gros, hein, même si on avait envie de se marier aussi. Mais on savait qu'on allait le faire pour la protection après de l'enfant qu'on allait ouais. avoir, etc., etc. Dans nos têtes, c'était ça.
D'accord. Mais Erasme te l'a demandé.
Alors là, je sais plus, parce que du coup, non, on n'était pas axé quand on a commencé, on n'était pas encore mariés. On a fait
d'accord,
des essais
okay. sans okay, okay. Pardon, j'avais compris ça, ouais. en fait.
Non, non, non okay. mais c'était de l'anticipation, voilà.
Non, mais c'est bien, de toute manière, c'est très bien. Et d'accord, en juillet, donc, un peu un voyage de Pâques, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Hop, un petit tour en Belgique. Exactement, comment ça se passe donc. Comment vous êtes accueillis?
Alors, honnêtement, ça se passe très, très bien. Les gens sont très, très, très gentils. On ne s'attendait pas à avoir un accueil aussi bienveillant, on va dire. Mmh. Et on passe d'abord un premier rendez-vous avec une psychologue.
Oui.
Donc, je sais qu'il y en a, il y a souvent des couples qui refusent, en fait, d'aller dans les cliniques où il y a cette demande, enfin, où la clinique demande de passer par un psychologue pour valider le projet. Mmh. Nous, ça nous faisait pas spécialement peur. Hein. Donc, on y est allé vraiment assez sereinement, on va dire. Et en plus, ça a été vraiment un entretien d'accompagnement plus que de jugement. Vraiment, oui. On s'est senti vraiment accompagnés, en fait, et on a pu expliquer les questionnements qu'on avait, et la psychologue a pu essayer de nous orienter et de nous donner quelques pistes aussi de réflexion. Donc ça, c'était intéressant. Voilà. Et d'affilée, d'accord. en fait, on est passé... donc ça, c'était le côté psychologue, et ensuite, on est passé au service gynécologie, où ils nous ont donné la liste des examens à faire, et revenir avec quand ça sera fait. Voilà, pour commencer les protocoles.
D'accord. Mais en fait, du coup, vous avez eu très peu de délais finalement et vous pouviez commencer assez rapidement.
Oui, Tout à fait.
Ah, c'est chouette. C'est chouette, ouais. Hein, parce que c'est toujours la crainte qu'on a, et encore plus maintenant avec la PMA en France, ouais. C'est vraiment toujours la crainte qu'on a de ces fameux délais qui sont à rallonge
ouais, dans certaines cliniques. Non, ça a été très très vite. Hein. Donc en fait, en septembre, voilà, en fait j'avais fait tous les examens, et du coup on y retourne juste pour faire un point avec la gynécologue là-bas, c'est un professeur qui nous suivrait tout au long du parcours.
D'accord. T'avais pas choisi. Oui, du départ, tu ne savais pas avec quel gynéco, t'avais fait aucun choix sur le gynéco qui allait te suivre. C'est non. Eux qui te donnent le gynéco par la suite.
Mais du coup, on a eu un peu la chance, on va dire, entre guillemets, d'être sur le professeur, en fait. C'était vraiment la personne la plus gradée du service.
La plus expérimentée.
Voilà, la plus expérimentée du service.
D'accord, ok. Ok. Et... vous repartez quand, du coup, après tous ces examens ? Enfin, est-ce que, suite à ces examens, déjà, on relève à nouveau le SOPK ou pas ?
Alors oui, du coup, quand j'y retourne avec les résultats des examens, donc là, j'explique que mon gynécologue m'avait dit que j'étais SOPK. Donc, ça pose pas de souci à la gynéco en tant que telle, puisqu'elle me dit, on va passer par une stimulation, du coup. C'est à prendre en compte. Par contre, en fait, grâce à l'hystérosalpingographie, on découvre que j'ai un polype dans l'utérus.
D'accord, ok.
Voilà. Donc, ça nous fait un petit peu de retard parce que courant du mois d'octobre, du coup, je me fais opérer et après, il faut que ça se remette en place, le temps de cicatrisation. Et du coup, on se lance sur le premier essai qu'en décembre.
D'accord, ok. Donc, en fait, un an plus tard, après le début, le premier appel, quoi.
Oui, de avril à décembre, en fait.
Ah, c'était avril, pardon, excuse-moi, ouais. J'étais restée sur janvier.
Non, t'inquiète. Donc, ouais, à peu près 6 mois, ouais. 6 mois, ouais. Voilà.
D'accord, non, mais franchement, je trouve que c'est très rapide en prenant en compte les premiers rendez-vous, l'opération.
Oui. Tout à fait, ouais, vraiment.
D'accord, et donc en décembre, vous y retournez ?
En décembre, là, ça s'enchaîne, en fait, on commence le premier essai, sauf que je vais pas au bout parce que j'ai un petit dérèglement hormonal. Mm-hmm. Et ils préfèrent que je continue pas le cycle et on s'arrête là et on attend le mois d'après. Donc en fait, la première vraie tentative, la première insémination, ce sera qu'en janvier 2018.
D'accord. Bon, déjà, ça doit être un peu... Donc, ce premier cycle avorté, c'est...
Ouais, c'est ça. Alors, psychologiquement, c'est vrai que ça, là, comme ça, quand on fait le bilan, ça paraît un peu court. Mais quand on commence et qu'on se dit, il y a eu le polype, puis après le premier essai avorté, ça commence pas super. Mais on reste très positif. Hein, donc, après, ça s'enchaîne. Mm-hmm. Donc, on fait le premier essai en janvier 2018. Et on rentre, et puis, du coup, c'est notre premier résultat négatif.
Ouais. Bon, après, sur un premier cycle...
Voilà.
Une première vraie tentative de cycle. Voilà. C'est pas anormal.
Voilà, c'est ce qu'on se dit. De toute façon, quand on a commencé, on s'était bien dit, premier, deuxième, troisième, c'est possible que ça marche pas, il faudra pas se décourager, etc. Voilà, on reste hyper positif. Et puis, on enchaîne le deuxième en février, le mois d'après. Et puis, un troisième en mars.
D'accord. Donc là, déjà, vous êtes à trois cycles. Du coup, financièrement, trois factures aussi.
C'est ça.
Soyons clairs. Si ce n'est pas indiscret, Erasme, ils sont à quel tarif à peu près ? Tu te souviens ?
Alors, on était vraiment, par rapport à ce qu'on avait fait comme recherche, on était entre 400, ça dépendait des mois et ça dépendait quel jour on y allait.
Oui, c'est vrai.
Si c'était un dimanche ou en semaine, mm-hmm. entre 350 et 500.
Oui, c'est ça, ils sont assez corrects, on va dire.
Voilà, parce que c'est un hôpital public, en fait.
Oui, c'est ça. Moi, j'étais passée aussi par un hôpital public et j'avais été étonnée des tarifs.
C'est ça.
C'est le pays 400, moi aussi, à peu près.
Oui, c'est ça.
Donc voilà. Mars, troisième échec, je suppose que ça commence à être dur.
Ouais, là ça commence à être très compliqué, surtout pour moi. C'est vraiment en fait le grand 8 hein, des émotions à chaque essai. En fait, la chute à chaque fois, ça fait très très mal. Après, quand on repart, y a tout l'espoir qui revient à chaque début de cycle. Mais voilà, c'est vraiment le grand 8 et... Et en fait, même si au fond de moi, je savais que ça pouvait ne pas être simple, je ne m'attendais pas à que ça soit compliqué comme ça moralement.
Oui, surtout que enfin, je sais pas toi, mais moi, je sais que de me dire que on est monitoré à fond, on peut pas se louper. On a du mal à comprendre que en mettant tout de notre côté, ça marche pas.
Exactement. C'est ça. Parce que vraiment, là, du coup, j'étais sous stimulation. Et puis, les piqûres hein, tous les jours, les échographies tous les deux jours, les prises de sang, etc. En fait, on a du mal à comprendre voilà, pourquoi ça ne prend pas, en fait.
Bah, bien sûr.
Que tout est mis en place pour que ça se fasse.
Oui, et que, initialement, mécaniquement, chez vous, il n'y a pas d'infertilité. Tu vois ce que je veux dire ?
Non, c'est ça.
C'est voilà. Pas, tu ne rentres pas dans un processus de PMA pour infertilité.
Mm-mm.
Enfin... de fait, quoi.
Exactement.
Voilà. D'accord, oui. Bon. Et alors, quel est le protocole d'Erasme par rapport à ça ? Est-ce que d'office, vous basculez sur une FIV ou est-ce que vous avez encore des tentatives à faire ?
Non, alors eux, à ce moment-là, ils nous disent qu'on peut continuer jusqu'à 6 inséminations.
D'accord.
Et qu'après, c'est un peu compliqué parce que plus on va en faire et en fait... ils disent qu'au niveau des pourcentages, ça descend.
D'accord, oui, et c'est effectivement le discours qui tient. Ouais.
C'est ça.
Et du coup, qu'est-ce que vous prenez comme décision ?
Voilà. Du coup, honnêtement, on se pose 36 000 questions. Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qu'on fait de mal ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Voilà, pour que ça prenne. Et du coup, on décide de faire une pause et de partir en vacances.
Excellente décision.
Voilà, et on se fait un petit road trip en Italie. Et là, ça fait vraiment du bien au moral. Hein. Donc, quand on revient, on est reboosté. Hein. On enchaîne des rendez-vous. Donc, je fais des rendez-vous ostéopathes. J'ai fait un rendez-vous magnétiseur aussi. Puis, quand on se sent prête, on repart sur le quatrième essai.
D'accord. Donc, du coup, on poursuit les inséminations.
Exactement. Donc, quatrième essai. Là, on est en juin 2018. Voilà. Donc là, ça fait un an.
Donc là, ça fait un an, ouais.
C'est ça, donc là, ça commence à faire un an. Et donc, quatrième essai et quatrième échec, voilà. Donc là, on est bien accompagné hein, par la clinique, hein, dans chaque résultat, même si on sent un peu démuni, eux, ils nous disent que ça peut prendre du temps, mais que, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, plus le temps passe et plus le pourcentage de réussite s'amenuise. Et que par contre, hein, faudra là à partir de ce moment-là, ils nous disent qu'il faudra commencer à penser à la FIV si au bout du sixième essai ça ne fonctionne pas.
Oui. Et est-ce qu'ils te proposent de revoir le psy ou pas ?
Non, pas à ce moment-là.
Pas à ce moment-là, d'accord. Non. Ok.
Voilà.
Du coup, réflexion sur la FIV.
Voilà. Donc du coup, à partir de ce moment-là, hein, déjà, bon, c'est la période, des vacances d'été, donc. Ça fait quand même, enfin, ça joue aussi un petit peu parce que ça nous fait du bien aussi de voir beaucoup notre famille, nos proches, etc. On se sent quand même pas mal soutenu, mais on accuse quand même le coup et faut le temps pour digérer un peu tout ça. Donc là, on prend la décision de faire une nouvelle fois une pause dans les essais et du coup, on se consacre un petit peu à la préparation de notre mariage.
Oui.
Voilà.
Bah oui.
C'est ça.
Parce que ça fait 2 ans.
Exactement. Et donc, entre-temps, on continue hein, de discuter, de communiquer entre nous. Moi, je sais qu'à ce moment-là, j'ai besoin d'extérioriser. Hein, donc, je parle beaucoup et j'essaie de me projeter sur la suite. Et c'est là qu'on choisit en fait, d'aller vraiment jusqu'au sixième essai, de s'arrêter. Et que si ça ne fonctionne pas, en fait, on changerait de « receveuse », entre guillemets.
D'accord, donc là, vous n'envisagez pas la FIV, en fait.
Non, on n'envisage pas la FIV. En gros, si la cinquième et la sixième, on se dit que si la cinquième et la sixième insémination, ça ne fonctionne pas, ça sera Émilie qui prendra le relais.
Est-ce que je peux te demander pourquoi ?
Oui. En fait, on choisit cette possibilité plutôt qu'enchaîner sur une FIV parce que moi, je me sens absolument pas apte mentalement à subir des examens médicaux encore plus poussés et des protocoles plus lourds. Parce que déjà, sur les 4 essais, ça a été très compliqué pour moi. Vraiment, cette sensation de grand 8, c'est difficile à gérer et je me vois pas subir ça. Et mentalement, en fait, je me sens pas du tout capable.
D'accord.
Et puis après, il y a le côté financier aussi.
Aussi. Voilà. Et puis c'est vrai que pour le coup, on a la chance d'avoir cette possibilité-là de changer de receveuse.
C'est ça, voilà. Et puis comme je te l'ai dit au début, nous, on n'était pas forcément attachés au fait de vivre une grossesse, ni l'une ni l'autre. Donc oui. Après, voilà.
Donc voilà, c'était un deuil différent à faire, on va dire.
Oui, c'est ça.
Après cette décision-là,
on garde quand même espoir. Hein.
Ouais, voilà. Quand même.
Et on fait la cinquième insémination en janvier 2019. Et du coup,
ouais, donc six mois après, en fait.
Voilà, c'est ça. On fait une longue pause. Ouais. Ouais. On fait une longue pause. On fait la pause l'été. Et ensuite, en plus, à cette période-là, j'ai changé de travail. Donc, ça m'a fait du bien aussi de commencer un nouveau boulot et de me reconcentrer sur moi, sur autre chose que que de ne penser qu'à ça, parce que vraiment, quand en plus on est sur les essais avec stimulation, ben c'est quand même lourd à porter au quotidien.
Ouais, c'est sûr.
Donc voilà, donc janvier 2019 le cinquième essai, et février 2019 le sixième essai.
D'accord, tous les deux négatifs.
Voilà. Et là, c'est très très dur. Là, c'est.
Ouais, je vais te dire comment tu le vis. Je me doute que.
Parce que même si on pensait à changer, etc., c'est et que j'étais pas forcément attachée au fait de tomber enceinte, mais c'est quand même des échecs et c'est quand même un lourd échec pour moi. Là, je sens que je dois faire mon deuil.
Ouais, parce que tu le prends forcément personnellement.
De mon deuil de grossesse à moi, même si j'étais pas attachée, c'est quand même quelque chose auquel il faut renoncer.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Et à ce moment-là, tu ne te laisses pas à toi la possibilité, postérieurement, d'une FIV.
Alors, si. Dans ma tête, c'est... j'évite de me projeter trop à ce moment-là, mais je me dis que si vraiment, dans le pire des cas, ça ne marche pas avec Emily, parce qu'on ne sait pas du tout, en plus, elle, comment elle est au niveau physiologique par rapport à une PMA et une procréation. Je me dis, si vraiment ça marche pas, peut-être que quand je serai au pied du mur, ben peut-être que là, j'aurai envie de le faire.
Oui, c'est ça. Il y a aussi cette notion-là de plus de choix.
C'est ça. Entre guillemets. Mais honnêtement, c'est vraiment très, très loin au fond de mes pensées. Enfin, c'est pas quelque chose qui est vraiment très présent à ce moment-là.
Oui, et du coup, c'est pas non plus ce qui va t'aider à faire ton deuil de cette grossesse-là à ce moment-là.
Voilà. Après, pour Émilie, c'est difficile, mais elle a beaucoup plus d'espoir que moi sur la suite. Elle arrive plus facilement à prendre du recul. Donc, en tout cas, comme ça, comme elle le montre, hein, puis quand on en discute, elle arrive mieux à prendre du recul que moi et elle se sent un peu mieux. Bon, c'est pas non plus hein, la folie, mais c'est quand même difficile, mais c'est plus difficile pour moi de vivre avec ces échecs-là que elle.
Oui, après, c'est logique dans la mesure où c'est ton corps qui, quelque part, marque une défaillance, même si on ne peut pas le dire comme ça, mais ça se comprend.
Et du coup, ça aura du sens, en fait, quand on changera en fait, de partenaire. Et là, ça résonnera plus en elle que en moi.
Oui, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, vous refaites une pause. Parce que je suppose quand même qu'il faut digérer.
Oui.
Et puis il faut tout faire pour Émilie aussi, du coup, ça prend du temps.
Et on est à 5 mois du mariage.
Donc, ah oui, en plus, voilà. Donc forcément, la pause s'impose.
Donc la pause s'impose et on se concentre sur le mariage. Donc en juin 2019, on se marie. Mm-hmm. Voilà. Et en juillet 2019, on prend rendez-vous de nouveau à la clinique pour leur faire part de notre décision.
Donc... Qu'est-ce qu'ils en pensent, ceux, de cette décision-là ?
Honnêtement, ils prennent pas parti. Hein. Ils sont à l'écoute et ils vont pas donner leur avis. Ils nous orientent juste par rapport à nos choix. Donc ça c'est quelque chose de chouette. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous proposent de revoir la psychologue.
D'accord.
Donc on revoit la même psychologue qu'on avait vue 2 ans pile auparavant. Mmh. Et on lui fait part de notre choix, des raisons pour lesquelles on fait ce choix-là. Donc le fait que je ne fasse pas de FIV et que ce soit Émilie qui prenne le relais, etc. Et ça se passe très très bien et elle nous accompagne très très bien pendant cette séance-là. Ça nous fait du bien. Et on repart de la clinique avec de nouveau la liste des examens à faire, mais pour Émilie.
D'accord. Je peux te demander si à ce moment-là, alors je me doute que c'est pas du tout son rôle, mais est-ce qu'à ce moment-là, elle évoque le fait que ça pourrait ne pas fonctionner et comment réagir face à ça ou pas du tout ?
Je me souviens pas. Je crois un petit peu. Je crois qu'on, même au début, hein, même la première séance avec elle, je crois qu'on en avait parlé, mais très vaguement. Enfin, ça m'a pas marqué en tout cas.
D'accord. Donc, vous repartez avec les examens.
Voilà, c'est ça.
C'est reparti.
Donc, elle fait les examens. Émilie fait les examens. Donc, il n'y a rien de particulier à noter. Donc, pour physiologiquement, hein, tout va bien. Mais par contre, on décide d'attendre encore parce qu'on fait notre voyage de noces en septembre et octobre 2019.
D'accord.
Voilà. Donc, on part au Canada faire un road trip.
Oh, super.
Voilà. À ce moment-là, en fait, faut que j'en parle également parce que ça a du sens aussi après. Enfin, en tout cas, ça aura de l'importance. En fait, à ce moment-là, Émilie, elle sait qu'elle est atteinte d'une RCH. C'est une maladie inflammatoire chronique des intestins. Et elle a cette maladie-là depuis 2017. Mais à cette période-là, ça reste hyper gérable. Hein. Les symptômes ne sont pas très contraignants. Et la maladie, elle est là, mais on arrive facilement à l'oublier. Et son gastro-entérologue, il lui dit même que si elle tombe enceinte, le peu de symptômes qu'elle a pourrait peut-être disparaître.
Ah oui, voilà. D'accord, ok.
Parce que comme c'est assez léger, il y a pas mal de femmes à qui ça arrive qu'une fois tombée enceinte, en fait, les symptômes disparaissent complètement.
D'accord.
Donc voilà.
Elle a été diagnostiquée facilement parce que je sais que c'est pas simple, hein, les RCH.
Oui, très facilement, très rapidement. En 2017, elle avait quelques symptômes et elle a fait des examens et elle a été suivie très vite, en fait.
D'accord, bon, chouette.
La chance pour ça.
Oui.
Voilà, c'est là on en est là. Donc, après le voyage de noces, Émilie fait son premier essai donc en novembre 2019. Uh-huh. Et un essai, du coup, sans stimulation pour elle.
D'accord. Voilà. C'est une volonté de votre part ou c'est le protocole chez...
C'est Razma. Le protocole. Ils nous disent qu'on commence, vu qu'elle n'a pas de difficultés hein, physiologiques pour la procréation, ils commencent toujours par... pour faire quelque chose de plus naturel possible, donc sans stimulation. Mais avec quand même un suivi, hein. Il y avait quand même un suivi gynécologique et par prise de sang pendant le cycle.
D'accord.
Voilà. Du coup, c'est un échec. Bon, comme les premiers échecs, hein, on s'inquiète pas trop. Mais nous, on demande à la clinique si on peut passer par une stimulation.
D'accord.
Donc voilà. Donc elle fait le deuxième essai en janvier 2020. Avec une stimulation. Puis là, bah, c'est une nouvelle fois un échec. Donc, toujours ce...
Comment vous encaissez, là? Parce que ça commence à faire beaucoup, quand même.
Oui, et là, c'est là où je te disais que les rôles s'inversent un petit peu moralement. Émilie, là, commence à ressentir vraiment ce que moi, je ressentais, en fait, quand c'était moi qui effectuais les inséminations. Et... moi, j'arrive à prendre un peu plus de recul, même si ça reste quand même difficile. Mais là, ouais, là toutes les deux, on est vraiment à un point où en fait, on ne sait plus réfléchir. On vit les émotions tellement fortement qu'on ne sait plus trop où on est et où est-ce qu'on va. Et là, ça devient dur.
Oui.
Donc là, on se raccroche un peu comme on peut pour rester le plus positif possible. Et du coup, on prévoit des vacances, hein, des voyages. Nous, c'est ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait sentir vivante. Donc, c'est ce qu'on fait. Et on se prévoit un voyage au Portugal pour avril 2020. Et voilà, c'est vraiment le
avril
seul
2020,
truc.
Oui.
C'est ça. C'est vraiment le seul truc. C'est ça, tu rigoles déjà d'avance. C'est vraiment le truc qui nous fait sentir un peu mieux. Mais voilà, puis en plus, tout de suite après, c'est ce troisième échec, en fait. Enfin, ce deuxième échec, pardon, il y a le confinement.
Oui, bah oui.
Voilà. Donc, mars 2020, confinement. Et là, on prend beaucoup, beaucoup de temps pour discuter. On parle vraiment énormément et on prend la décision de ne pas aller jusqu'à 6 essais. Parce que pour moi, ça a été difficile et que ça a été très long. Et on se dit, bon, 4 essais. Et puis, si ça ne fonctionne pas au bout du 4e essai, eh ben, c'est Émilie qui fera une FIV.
Ok, donc là vous envisagez la FIV.
Là on envisage la FIV et je dis clairement à Émilie que si elle est d'accord, je préférerais que ça soit elle qui fasse cette FIV là. Donc toujours avec la même clinique parce qu'on s'y sent bien et on s'y sent bien, bien accompagné. Et parce que je me sens vraiment encore pas prête à ça. Donc confinement, donc ce besoin d'évasion, de liberté et aussi de projet hein, pour aller de l'avant. Du coup, à partir de ce moment-là, il y a chez moi, en fait, c'est ce besoin d'avoir un projet commun pour aller de l'avant. Et j'ai besoin d'avancer, de me projeter dans un avenir plus concret, sans espérer sans avoir espéré de miracle, en fait, un projet dans lequel je pourrais avoir une emprise et du pouvoir. Voilà. Parce que là, vraiment, je me sens démunie et j'ai envie de faire quelque chose sur lequel je vais pouvoir agir. Parce que là, je me sens vraiment inutile, mais c'est même pas ça. C'est vraiment, j'ai pas de pouvoir, j'ai pas
impuissante,
de.
Impuissante, oui.
J'ai impuissante, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc pendant toute la durée du confinement, moi je prends la tête à Émilie pour se lancer dans un projet d'aménagement de van. Voilà.
T'as trouvé déjà.
C'est ça. En fait, quand on est rentré du Canada, on a fait un road trip au niveau du Québec. On a loué une voiture là-bas et on a voyagé un peu comme ça en voiture. Et déjà, ça me trottait dans la tête. Je me disais que j'avais envie de voyager plus souvent comme ça, mais peut-être avec plus de liberté, avec cette possibilité de dormir où on veut. Et donc, quand on est rentré, j'avais ça en tête déjà. Et tout ce qui s'est passé, en fait, m'a poussé un petit peu à explorer un petit peu plus cette idée-là. Et donc, pendant tout le confinement, hein, je parle que de ça à Émilie. Je lui montre des photos, je lui montre des comptes Instagram, des vidéos YouTube sur des gens qui font ça. Donc, voilà. Et j'arrive... donc, au début, elle est pas chaude du tout pour ça. Et c'est une idée qui a du mal à prendre, mais... après, je pense que parce qu'elle a aussi la tête ailleurs. En fait, elle a continué de travailler pendant le confinement, donc c'était un peu différent pour elle. Mais voilà, du coup, elle se prend petit à petit au jeu, et puis on se décide de passer à l'action par rapport à ça.
Ah oui, non mais ça, du coup, t'as réussi à la convaincre rapidement.
Oui, c'est ça. En l'espace d'un mois et demi, j'ai réussi à la convaincre, mais je suis tenace. Hein.
Ouais, non mais après, tu vois, enfin, moi c'est pareil.
Ouais, des fois. Moi, j'ai réussi à l'avoir parce qu'en fait, je sais que c'est une fan de bricolage. C'est une bricoleuse de dimanche, hein, mais voilà. Et puis, on habitait en appartement à Rouen. Et je lui dis, mais tu sais, si on se lance là-dedans, on va devoir déménager pour louer une maison et puis trouver un atelier pour bricoler dessus. Voilà, au bout de quelques jours, je l'avais eu.
Je comprends. Voilà. Et donc, du coup, vous lancez à corps perdu là-dedans. Mais vous trouvez un fourgon tout de suite? Vous saviez ce que vous vouliez ou vous faites vos recherches
Pendant le confinement, donc, du coup, moi, je fais plein de recherches sur le type de fourgon par rapport à nos envies, nos choix, nos besoins, etc. Je passe mon temps, la plupart du temps du confinement, c'est des recherches par rapport à ça. Hein. Je me renseigne sur les autonomies électriques, les fonctionnements du gaz... la mécanique, vraiment sur tous les niveaux, je me renseigne et puis voilà, vraiment vers le mois de mai, Émilie qui prend vraiment part là au projet, elle fait ses recherches de son côté et puis du coup à partir de ce moment-là, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, le premier truc à faire, ce serait de chercher une maison avant d'acheter un camion parce qu'on n'aurait pas de quoi le garer parce qu'on habitait à Rouen, hein, donc quasiment dans le centre, donc c'était un peu compliqué. Donc on se dit bon bah allez, cherchons une maison en location, comme ça on va pas acheter parce que comme ça on garde ce côté, voilà, on est libre, si on veut partir on part, on laisse la maison. Et donc on commence par ça, en fait on commence par rechercher une maison pour déménager. Donc ça c'est
gros projet aussi,
c'est ça, voilà. Donc après, pour être de nouveau dans la chronologie, en fait, donc là, c'est la fin du confinement, on commence à faire nos recherches, et en même temps, Émilie, en fait, elle se prend au projet, mais dans son corps, il se passe des choses, c'est que sa maladie, la RCH, elle commence à prendre beaucoup de place. La maladie, elle progresse, et ça devient un petit peu plus compliqué au quotidien pour elle de gérer. Donc, elle est bien suivie, hein, au CHU de Rouen. Donc, voilà, elle a un suivi régulier, etc. Et à partir de là, le médecin lui dit « Bon, on va prendre des rendez-vous un peu plus régulièrement parce que si la maladie progresse, il va falloir faire attention. » Donc, en parallèle de ça, au mois de juin, c'est la fin du confinement. On peut sortir, on peut retourner au restaurant, etc. Et du coup, on choisit d'aller faire un troisième essai. Voilà, une troisième tentative. D'accord. Au mois de juin. On sort du confinement, on est un peu plus reboosté et on se dit bon, allons-y quoi. Peut-être que ça peut marcher là maintenant et puis après ça nous empêchera pas non plus de continuer ce projet sur l'aménagement de van. Donc voilà, donc on part sur le troisième essai. Bah, toujours un test de grossesse négatif.
Ah oui. Donc, il ne reste plus qu'un essai là, de ce que vous vous êtes fixé.
Exactement. Il ne reste plus qu'un essai de ce qu'on s'est fixé. Mais là, à partir de là, quand Émilie, elle voit son gastro, il lui demande d'arrêter les tentatives de grossesse pour prendre un traitement à base de cortisone.
D'accord. Ok. C'est incompatible, en fait.
Voilà, c'est ça. Le traitement qu'elle va prendre, c'est... ce sera incompatible avec une grossesse, en fait, c'est que là, la maladie, elle a pris tellement de place que là, c'est important qu'elle fasse attention à sa santé.
D'accord.
Voilà. Donc, ça, c'est un traitement, en plus, qu'il lui fait prendre pendant l'été 2020. Sauf que elle a toutes les effets secondaires du traitement, mais sans que ça fonctionne. Donc, le traitement ne fonctionne pas du tout. Et du coup, après l'été, en fait, elle arrête le traitement. Enfin, elle arrête pas comme ça, parce que la cortisone, en fait, c'est comme c'est le corps, il en a besoin. En fait, quand on en prend, après, il faut en prendre dégressivement. Oui,
il faut que ce soit dégressif.
Voilà, c'est ça. Donc, il lui fait descendre un petit peu chaque semaine les doses. Et comme elle a pris des très grosses doses, ça prend beaucoup de temps.
D'accord.
Voilà. Donc, il lui fait descendre son traitement en vue de commencer un nouveau, qui est une biothérapie, un traitement par injection, mais qui lui ferait baisser ses défenses immunitaires. Du coup, pour ça, il faut qu'elle refasse tous ses vaccins, qu'elle refasse un point sur tous les vaccins qu'elle a, qu'elle se fasse vacciner contre la grippe, etc., avant de pouvoir commencer ce traitement-là.
D'accord. Et ça, ce serait compatible avec une grossesse ?
Alors là, du coup, c'est pas incompatible avec la grossesse. Sauf que les médecins, donc c'est gastro, parce que du coup, après, elle est suivie par deux gastro. Et ils lui disent qu'en fait, si là, par contre, elle tombe enceinte avec la maladie en crise, là, ça peut empirer pendant qu'elle est enceinte.
D'accord.
Donc, okay. Ils lui disent que c'est possible, mais que c'est pas conseillé.
D'accord, ok. Voilà. Ok.
Donc là, on est clairement en pause et on ne sait pas combien de temps, puisque du coup... Bah, ça dépend vraiment de la santé d'Émilie. Donc, on essaye de se consacrer à Mozart.
Oui. Oui, parce que là, du coup, toi, tu te dis pas... Enfin, tu reprends pas la main en te disant « J'ai la possibilité, moi, de basculer sur la FIV. »
Pas tout de suite.
Ce que je comprends. Hein, voilà. Mais...
En fait, donc là, en septembre 2020, on déménage. Sachant que quand on a trouvé la maison... Elle n'était pas tout de suite libre, mais on savait qu'on allait emménager. Et une fois qu'on a trouvé la maison, on a commencé à chercher notre camion. Donc, on a acheté notre camion en juillet 2020, emménagé en septembre. Et dans la foulée, bon, un déménagement, ça prend toujours du temps. Mais du coup, on a commencé les travaux en octobre 2020 sur Mozart.
D'accord.
Donc, ça nous prend pas mal de temps, les week-ends. Puis après, il y a eu un autre confinement, donc... Donc, on en a profité aussi. Là, on est en décembre 2020. Donc, on est posé. Hein, le déménagement est fini. Les travaux sont commencés. On souffle un petit peu. Et on fait le bilan. Et on se dit qu'en fait, ça fait 3 ans qu'on a débuté le parcours. Et là, je me dis que... En fait, quand on a commencé, je ne m'imaginais pas que ça pouvait être si long. Enfin, si, je m'imaginais. Mais je me disais que je m'arrêterais avant. En fait, c'est long, mais à la fois, ça passe vite. Et comme je le dis dans ma vidéo, je m'étais toujours dit que, en fait, je ne serais pas de celles qui se battent indéfiniment, que je ne pouvais pas mettre toute l'énergie de ma vie dans un parcours pour la parentalité. Parce que, en fait, quand on a commencé, c'est ce que j'avais expliqué à Émilie hein, quand on en discutait au tout début. Je lui disais, mais tu sais, si ça ne marche pas, moi, je ne serais pas de celles qui va se battre voilà, des années et des années, je serais pas capable, je peux pas faire ça. Et parce qu'on avait une amie, en fait, qui, elle, où ça a été très long, etc., et je la trouve hyper courageuse, mais moi, je me sentais pas de faire ça. Vraiment, je me sentais pas de faire ça. Mm-hmm. Voilà, après, on pourrait dire que je suis pas assez positive ou que je me donne pas les moyens, mais c'est très, très compliqué à vivre émotionnellement un parcours comme ça sur du long terme et qu'on sait pas si ça va marcher parce que on n'a jamais eu un seul test positif. Il n'y a pas eu de fausses couches précoces ou des choses comme ça. C'est que du négatif. On se dit, mais il y a quelque chose. Et en plus, il n'y a pas de raison médicale à ça. Donc on ne sait pas, en fait.
C'est injuste. Ouais. C'est, ouais.
Et moi, je sais que j'aimerais être mère, mais je crois que je ne le veux pas au prix de ma santé mentale ou de mon énergie. En fait, je ne sais pas. Peut-être c'est parce que je travaille avec des enfants et que du coup, j'en accompagne chaque jour hein, sur leur chemin de leur vie sociale. Je ne sais pas. Après, même si j'ai cette réflexion-là, à ce moment-là, du coup, je me dis que je ne suis pas seule dans mon couple. Oui. Et je sais qu'il faut que j'accompagne Émilie, que je sois là pour elle, que je sois à l'écoute de mon couple. Et du coup, après des heures et des jours de réflexion, eh ben, on prend la décision de continuer les essais en changeant de méthode. Voilà. D'accord. Du coup, une méthode avec moins de médical et plus de naturel. Et on se met à la recherche d'un donneur pour faire ça de façon artisanale.
D'accord, d'accord, oui, donc complètement, en même temps, dans la mesure où c'est Émilie qui est dans les essais, il n'y a plus de problème de SOPK, donc tu peux passer...
Mais du coup, on décide que ce soit moi.
Ah,
voilà. Ok. En fait on trouve rapidement le donneur hein, au début d'année, de l'année dernière en fait, comme on sait qu'on change de méthode. Honnêtement, dans nos têtes, c'est un peu comme si on reprenait tout depuis le début. C'est on efface tout et on recommence. Et là, on retrouve l'espoir, la projection. Tout ça, en fait, on arrive à se reconnecter à ce projet de PMA. Voilà, on arrive à vraiment à reprendre tout ce qu'on avait perdu, en fait, en discutant sur ce qu'on allait faire. Ça, tout revient, en fait.
Ouais, l'envie, l'espoir.
Et c'est étonnant, en fait, comme sensation, parce que et malgré le fait que j'ai fait mon deuil de grossesse, hein, on prend la décision de faire les essais pour moi parce que du coup la maladie d'Émilie elle fait que progresser et là c'est pas possible en fait même pour elle au quotidien c'est très difficile et c'est pas compatible avec le fait de faire un essai. C'est vraiment difficile et j'ai cette petite voix en moi ou cette culpabilité je sais pas hein, on appelle comme on veut hein, et qui me dit que il faut que j'aille au bout de mes propres possibilités.
Et donc, vous trouvez un donneur rapidement ?
Voilà, c'est ça. Donc, sur Internet, on fait pas mal de recherches et puis on trouve un donneur. Et là, honnêtement, on se sent beaucoup plus sereine hein, dans ce qu'on va vivre. Hein. Et puis, en plus, avec l'expérience, je sais écouter mon corps. Et c'est beaucoup plus simple. Et que même si je suis SOPK, ben j'ovule quand même et j'ai pas de problème d'ovulation. Et c'est juste parfois un peu plus long. Et du coup, j'ai l'espoir D'accord. que ça puisse fonctionner de façon naturelle, c'est-à-dire sans médical et avec plus de sérénité. Peut-être que mon corps serait plus apte à. Plus réceptif. Ouais. C'est ça.
Et du coup, vous commencez les essais quand ?
Du coup, on fait un premier essai. Je crois que c'était en mars de l'année dernière.
Donc 2021.
C'est négatif. Après, on se dit, voilà, bon, c'est le premier. C'est le premier de cette méthode-là. Voilà, c'est normal, quoi. Donc, on fait un deuxième le mois d'après, toujours négatif. Là, on se dit, bon, honnêtement, on le prend moins de façon triste que les essais à la clinique. Ça fait mal, mais c'est plus doux. Peut-être parce qu'on a l'habitude après, ou peut-être que c'est parce qu'on donne moins d'énergie. Il y a quand même beaucoup moins d'énergie dans cette méthode-là que quand on choisit de passer par une clinique avec un accompagnement médical.
Et est-ce que là, vous étiez de base, en y réfléchissant, vous étiez dit, ou vous aviez évoqué la possibilité de vous mettre un stop ?
Non.
Parce que toi, tu l'as déjà pensé, en
Alors
fait.
Alors là, franchement, on se lance dans cette méthode-là sans avoir de projection. Vraiment, là, même nous, notre méthode dans notre tête, elle a changé. C'est-à-dire qu'on ne se projette plus en se disant, bon, si à tel essai, on fait ceci, si là, ça ne marche pas, on fait cela. Il n'y a plus de projection sur comment on va faire. Du coup, là, je fais deux essais et en fait, j'en enchaîne un troisième. Le troisième également négatif. Et là, on dit à notre donneur en fait qu'on va faire une pause parce que c'est l'été, c'est les vacances et que du coup on va partir un petit peu. Et pendant l'été, du coup, on discute et c'est à partir de ce moment-là que que je me dis que je veux arrêter.
Et Émilie, elle le prend comment ?
Émilie, c'est plus difficile pour elle parce que elle, à ce moment-là, donc c'était cet été, hein, elle commence en fait son traitement de biothérapie par injection. Donc déjà, dans sa tête, elle est concentrée là-dessus. Et ça lui prend de l'énergie mentale, on va dire, assez énorme. Déjà physiquement, ça lui demande beaucoup d'énergie, sa maladie. Et puis mentalement, du coup, le traitement demande beaucoup de temps. Elle fait un premier traitement qui fonctionne pas. De la maison, en fait, elle se faisait des injections elle-même, intramusculaires, ça fonctionne pas. Et du coup, son gastro lui propose un autre traitement de biothérapie, mais à l'hôpital. Et donc là, ça veut dire des rendez-vous tous les mois à l'hôpital pour prendre un traitement sous surveillance, en fait.
D'accord.
Voilà.
Oui, donc là, ça devient vraiment hyper contraignant.
Oui, c'est ça. Pour elle, la maladie. Donc, c'est pas possible de penser à rechanger une nouvelle fois sur cette méthode-là. On en a discuté, hein, parce que quand je lui ai dit que, en fait, moi, j'avais plus d'espoir pour moi, je crois que là, comme je te disais tout à l'heure, fallait que j'aille au bout de mes possibilités, mais là, je crois que j'étais vraiment au bout de mes possibilités. La FIV, pour moi, c'est plus possible. Je l'imagine même plus, j'arrive pas, ce serait trop, trop difficile. Et là, en fait, j'ai plus d'espoir parce que je me dis, c'est le destin, en fait. C'est la nature qui veut pas. C'est quand ça marche pas, ça marche pas. Et ça sert à quoi de continuer et d'utiliser mon énergie pour ça alors que je pourrais l'utiliser pour d'autres choses.
Oui, et puis vous avez aussi la maladie d'Émilie sur laquelle vous concentrez. Donc, vous avez d'autres combats à mener.
Exactement, voilà. Donc, voilà, y a certaines personnes qui seraient dans notre cas, qui pourraient avoir envie hein, de continuer la bataille, mais d'autres comme nous qui psychologiquement hein, peuvent pas, enfin comme nous, comme moi surtout, parce que du coup, elle, c'est juste qu'elle est. Je pense qu'Émilie, elle n'est pas encore. Prête parce que son corps ne veut pas, mais si elle commence à aller mieux au niveau médical, je pense que ça pourrait revenir sur le mm-hmm. C'est quelque chose qui pourrait revenir. Après, de mon côté, je sais pas.
Oui. Bon, après, t'as le temps de.
C'est ça.
D'atterrir parce que c'est un parcours qui a été difficile et que, comme je te le disais, vous avez aussi la maladie d'Émilie à gérer et que, mine de rien, bah, c'est très prenant émotionnellement et psychologiquement. Je me doute qu'au quotidien, ça doit être difficile à vivre. Vous avez été loin déjà dans ce parcours. Vous avez été très loin.
Oui, c'est ça. En fait, en tout, du coup, moi, j'aurais eu 9 inséminations, Émilie 3. Et c'est déjà énorme, en fait, quand j'y pense. C'est.
Oui.
Et puis, ça fait 4 années, en fait, à être dedans, avec des pauses forcément un peu plus longues que d'autres parfois, mais voilà. C'est...
Mais avec ça, dans un coin de ta tête, quand même.
Ouais.
Mmh. Est-ce que aujourd'hui, donc tu me disais tout à l'heure, hors enregistrement, que tu étais plus à l'aise avec le fait d'en parler, parce que ça y est, tu commençais à accepter l'idée. Tu arrives à te projeter ? Tu arrives à nouveau à te projeter dans ta vie ?
Oui. Ouais, j'arrive à me projeter dans ma vie avec des tonnes de projets. Hein. Déjà avec des projets de voyage. Mm-hmm. Mais oui, c'est pas facile hein, de quand on s'est imaginé avec un enfant ou plusieurs. C'est pas facile après de se remettre à s'imaginer en couple sans enfant. Parce mm-hmm. que pendant 5 années, on s'imagine, on se projette. Et après, il faut effacer toutes les images qu'on a et en créer d'autres. Et après, moi, j'ai la chance d'être une personne qui aime créer. Donc, même dans ma tête, j'arrive à créer d'autres avenirs. Voilà. Et puis après, comme D'accord. je te disais, c'est peut-être parce que je travaille aussi avec des enfants et que du coup, c'est peut-être un peu plus simple.
Mmh.
Voilà.
Et votre couple, dans tout ça, est-ce qu'il a subi ? Est-ce que vous vous êtes renforcé ? Comment ça s'est passé pour vous ?
Oui, forcément, le couple a subi un petit peu, mais sans forcément se renforcer ou se fissurer. Je crois qu'on est resté toujours au même niveau. On a commencé notre couple vraiment avec des bases très solides. Alors, au début, c'était un petit peu chaotique. Hein. Les premiers mois qu'on a passé ensemble, Mais c'est à ce moment-là, sur les premiers mois qui étaient chaotiques, qu'on a pu construire une base hyper solide du couple et qui fait que ça s'est jamais ébréché avec le parcours. Ça c'est pas non plus, c'est pas quelque chose qui a consolidé, mais en tout cas ça fait partie de notre histoire, c'est sûr.
Ouais. En tout cas, ça se ressent dans votre compte Instagram, mmh. Cette solidité, cette force que vous avez toutes les deux. Vous avez un parcours qui est très beau, mine de rien. Même si au bout, il n'y a pas de résultat, mmh. Vous l'avez mené ce parcours et vous avez eu cette force-là. Et déjà, ça, je pense que c'est une belle victoire. Maintenant, vous avez aussi eu la force et vous avez la force actuelle de vous projeter sur d'autres projets. Et il faut dire que Mozart, il est quand même sacrément beau. Je vous invite tous à aller voir le fourgon qui est
c'est
magnifique.
Gentil, merci.
En tout cas, enfin, je ne sais pas si c'est bien de dire ça ou si c'est encourageant ou pas, mais moi, ce que vous avez construit de votre vie, ça me fait triper, honnêtement. Alors oui, c'est pas la vie que vous vouliez, mais vous êtes en train d'en construire une très belle quand même.
Ouais. En fait, ce qui a été le plus difficile pour moi dans tout ça, c'est deux choses. Déjà, la première, c'est de me dire que je serai jamais le parent d'un enfant. Voilà, ce renoncement à la parentalité, c'est difficile de renoncer à ce rôle, en fait. Et le plus dur aussi, en fait, c'est de me dire que je n'offrirai pas un membre à moi, ce que j'appelle ma tribu. En fait, ma tribu, c'est ma famille. Et en fait, je viens d'une très, très grande famille. Et j'ai une tonne de cousins, cousines qui sont mes meilleurs amis. Qui sont comme mes frères et comme mes sœurs, et on est tous proches, ou même très proches. Et ça dure depuis des générations. Et nos parents ont toujours su un peu entretenir cet esprit de famille, et de voir les enfants aujourd'hui qui arrivent à recréer ces liens, bah, c'est un sentiment inexplicable. On imagine que dans l'avenir, bah, ils seront là les uns pour les autres, comme nous on l'est, entre cousins. Et moi, j'aurais voulu apporter en fait un membre à cette famille. En fait, c'est cette chose-là qui est vraiment difficile pour moi.
Ouais, c'est sûr, je comprends. Mais en même temps, tu apporteras ta part d'une autre façon.
C'est ça.
Et je pense que tu seras aussi la super tata qui aura encore l'énergie et la force de pouvoir les prendre et s'occuper d'eux.
Ouais, exactement.
Je te remercie beaucoup, Jessica, d'avoir bien voulu partager ce parcours difficile. Il n'y a pas à dire. Beau aussi, parce qu'il vous a permis, clairement, de vous projeter sur d'autres projets. Et je vais inviter nos auditeurs à te rejoindre sur ton compte Instagram, parce que je sais que tu n'es pas la seule, que vous n'êtes pas les seuls à avoir dû renoncer à ce parcours. Donc je vais les inviter, s'ils le souhaitent et si toi tu es d'accord,
oui, à
vous rejoindre pour pouvoir en discuter.
Tout à fait, qu'ils n'hésitent pas, hein, vraiment. Moi, comme je disais, je suis libre d'en parler, et moi je suis contente que tu m'aies invitée sur ce podcast parce que je voulais vraiment parler de ça et expliquer aux gens qu'il ne faut pas non plus culpabiliser de vivre ça, de vivre des échecs. Et il faut penser à soi.
Voilà. Ouais. Je pense que c'est hyper important, parce qu'on s'oublie dans ces parcours-là. La plupart du temps, on se met de côté, on subit aussi pas mal. Comme tu le disais, on est impuissant, on manque de pouvoir. Et c'est important de se retrouver soi et de tenir compte de soi, parce que finalement, c'est nous les acteurs de ce parcours, même si on est assez passif.
Tout à fait.
Je te remercie beaucoup, Jessica.
Merci, Constance.
Je te dis à très bientôt. Les statistiques sur les taux de réussite sont bien sûr les premières choses que l'on consulte et sur lesquelles on s'informe quand on rentre en parcours de PMA. Les taux de réussite des IAD, ceux des FIV, les pourcentages de chances de tomber enceinte après 1, 2, 3 ou 4 tentatives, en fonction de l'âge, de l'AMH, etc. On devient incollable avec le temps et les essais. En revanche, on ne trouve pas ou peu de données sur le taux d'échec, et ce n'est même pas forcément abordé par les cliniques. Et pour cause, j'ai envie de dire, ils vendent un taux de réussite et non d'échec. C'est regrettable, parce que je pense que ça devrait faire partie de l'information dispensée lors des premiers rendez-vous, même si, à ces moments-là, nous n'avons pas envie d'entendre cela, au moins pour évoquer des solutions alternatives. Je suis sûre que vous connaissez des personnes en parcours qui se posent la question de l'arrêt. Cet épisode peut sûrement les aider. Et si vous n'en connaissez pas, le partage sur les réseaux sociaux peut sûrement atteindre des personnes concernées. Enfin, vous pouvez aussi tout simplement le partager parce qu'il vous a plu.
Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast et Spotify maintenant, et ou me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne du podcast sur ces plateformes ou sur YouTube. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour poursuivre la discussion sur ce thème ou pour en commencer de nouvelles. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.